Laudetur Jesus Christus.
Radio Vatican, le journal, Marine Henriot.
Bonsoir à tous. C'est tout un pays qui est confiné à nouveau. Israël depuis 14h cet après-midi et ce au moins pour 3 semaines, alors que commence ce soir la période des fêtes juives avec le nouvel an Rosh Hashanah. On fait tout de suite le point avec à Tel Aviv, Lucas de Villepin.
Avec encore plus de 5000 nouvelles contaminations au Covid-19 en 24 heures, Israël est le pays au monde où le virus progresse le plus rapidement par rapport à sa population. Depuis 14 heures heure locale, un nouveau confinement est entré en vigueur pour au moins 3 semaines, la période des fêtes juives. Les Israéliens ont interdiction de s'éloigner à plus d'un kilomètre de chez eux et des barrages routiers ont été installés pour contrôler les déplacements entre les villes. Les commerces non essentiels ont fermé, de même que les écoles, les administrations fonctionnent au ralenti et les transports publics sont réduits. Dans les synagogues, le nombre de fidèles est limité, chacun doit respecter la distanciation sociale lors des prières collectives. Des restrictions qui seront probablement renforcées dans les prochains jours, c'est ce qu'a affirmé Benjamin Netanyahou hier lors d'une intervention à la télévision. Ce confinement est très mal vécu par la population, sur les réseaux sociaux les appels à la désobéissance civile se multiplient, résultat 7000 policiers et soldats ont été déployés pour faire respecter les consignes. Lucas de Villepin, Tel Aviv, Radio Vatican.
Situation également inquiétante en France où plus de 10 000 contaminations ont été recensées hier. Devant la recrudescence des infections au Covid-19 en France, le gouvernement ne parle pas de deuxième vague, mais il reconnaît que l'épidémie est à nouveau très active sur l'ensemble du territoire national. C'est ce qu'a déclaré hier soir le ministre français de la Santé, Olivier Véran. Le ministre de la Santé maintient et défend néanmoins la stratégie du gouvernement, une approche dans le cadre de laquelle les nouvelles mesures de restriction sont prises au niveau local. Aujourd'hui, c'est la ville de Nice, dans le sud de la France, qui annonce le port du masque obligatoire dans ses rues. L'Espagne, elle aussi, est un des pays d'Europe où la pandémie rebondit le plus. La région de Madrid est préoccupante et a demandé l'aide du gouvernement central. De nouvelles mesures de restriction devraient être annoncées ce vendredi. Les quartiers les plus pauvres de la capitale espagnole sont parmi les plus touchés. Et puis, l'épidémie n'épargne pas non plus la République tchèque, où plus de 3000 cas de contamination ont été recensés ces dernières 24 heures. Des chiffres qui sont équivalents à ceux du mois de mars. En nombre de nouveaux cas pour 100 000 habitants, la République tchèque se situe désormais au deuxième rang de l'Union européenne derrière l'Espagne. La plupart des patients présentent cependant des symptômes légers ou inexistants et seulement 413 personnes sont actuellement hospitalisées. Et puis enfin en Islande, ce sont les bars et les discothèques de la capitale Reykjavik qui garderont porte close pendant 4 jours. Et ce, à compter de ce vendredi, ont annoncé les autorités. La Libye devrait reprendre sa production et ses exportations de pétrole. Des groupes fidèles à l'homme fort de l'Est libyen, Khalifa Haftar, ont annoncé la levée du blocus imposé sur les champs et terminaux pétroliers depuis des mois. Toutefois, la situation demeure encore floue car les positions de la société publique qui gère le secteur pétrolier et le gouvernement de Tripoli n'ont pas accueilli la nouvelle avec enthousiasme. Les précisions de Mohamed Haddad.
Khalifa Haftar, le chef des forces armées de l'Est, a annoncé la reprise de la production de pétrole après un blocus de 8 mois. Du côté de Tripoli, un haut responsable politique a affirmé à l'agence de presse Reuters qu'un comité serait formé pour assurer une distribution équitable des revenus. Cependant, la Société nationale du pétrole, qui gère le secteur énergétique libyen, a appelé à ce que les installations pétrolières soient démilitarisées, faute de quoi les exportations ne pourront pas reprendre. Le blocus des forces de l'Est a coûté à la Libye 9 milliards de dollars en perte de revenus jusqu'à présent en cette année 2020, selon la Banque centrale de Libye. L'arrêt est devenu un obstacle majeur aux nouveaux efforts de paix après l'échec de l'offensive de Khalifa Haftar sur Tripoli l'été dernier. La Libye est littéralement divisée en deux, entre d'un côté l'Ouest, contrôlé par le gouvernement d'accord national, le GNA, qui est reconnu au niveau international, et l'armée nationale libyenne de Khalifa Haftar dans l'Est du pays. Ces dernières semaines, plusieurs signes de désescalade se sont succédés. Le dernier en date, l'annonce de la démission de Fayez Sarraj, le chef du GNA, à la fin du mois d'octobre prochain, après 5 ans au pouvoir. Selon plusieurs analystes, cela va ouvrir la voie à une bataille politique pour sa succession. À Tunis, Mohamed Haddad pour Radio Vatican.
Des violences au Burundi. Le groupe de rebelles Red Tabara revendique une série d'attaques ces derniers jours dans le pays. Plus de 40 personnes ont été tuées parmi les forces de sécurité et la Ligue de jeunesse du parti au pouvoir. Ce groupe de rebelles indépendantistes, mouvement de résistance pour un état de droit au Tabara, était jusqu'ici cantonné en RDC, mais depuis plusieurs semaines, il a passé la frontière et sévit au Burundi. Un pas de plus vers la lutte contre la corruption au Vatican. Un protocole d'accord a été signé entre le secrétariat pour l'économie et le bureau du réviseur général pour travailler encore plus étroitement pour la mise en œuvre des règles de transparence et de concurrence dans les marchés publics du Saint-Siège et du Vatican. Pour plus de détails, une adresse www.vaticannews.va. Ce soir, dans notre dossier, nous repartons direction le Liban. Le pays est toujours dans l'attente de la formation d'un nouveau gouvernement et le premier ministre désigné, Mustapha Adib, a annoncé hier la prolongation des consultations après un rendez-vous avec le président Michel Aoun. Chaque jour, le pays du Cèdre s'enfonce davantage dans une crise à la fois politique, sociale et économique. Près d'un mois et demi après les explosions qui ont ravagé Beyrouth, 300 000 personnes sont toujours actuellement sans domicile dans la capitale libanaise. Pour soutenir ces populations de plus en plus vulnérables, le secrétaire général de Caritas Internationaliste vient d'effectuer une visite sur place. Un geste de solidarité, mais ce déplacement a également pour objectif d'évaluer les besoins et de mieux coordonner l'aide et les programmes de reconstruction. Aloysius John décrit sur place une situation dramatique et dénonce l'indifférence de la communauté internationale. On l'écoute.
J'ai visité le terrain et je me suis rendu compte que c'était quelque chose presque égal à le tsunami en 2004. Tout était soufflé. Environ 300 000 personnes sont encore à la rue, sans aucune possibilité de pouvoir intégrer leur habitat. J'ai visité des familles et la question que la plupart des gens posent, c'est « qu'est-ce que je vais faire ?» L'hiver arrive et dans deux mois, comment est-ce que je vais pouvoir vivre? Avec la crise économique, les gens ils n'ont plus le moyen d'acheter de quoi à manger. Et ils ont aussi arrêté de travailler parce que, à cause de l'explosion, ils ont fermé le bureau. Donc, il n'y a plus de salaire. À l'heure actuelle, il y a quatre crises. Il y a la crise politique, crise économique. Après, il y a cette explosion. Et il y a le Covid-19. Quatre crises s'emboîtent. L'État est absent. Et la classe moyenne est en train de s'appauvrir. Même les riches sont en train de devenir pauvres aujourd'hui.
Donc des besoins énormes, besoin de reconstruire, reconstruire les maisons, reconstruire les rues, des besoins au niveau alimentaire aussi, et beaucoup de traumatismes.
Oui, c'est une, je dirais, situation apocalyptique. Et ce que disait une personne, il dit, c'est comme si pour nous c'était le dernier jour où tout était en feu. Et puis, j'ai appris hier, 600 000 enfants aujourd'hui, Syriens et Libanais, ils sont tous traumatisés. Et donc, il y a beaucoup de peur, beaucoup de crainte pour l'avenir.
Le Liban est toujours en attente de la formation d'un nouveau gouvernement. L'instabilité politique dans le pays a de lourdes répercussions au niveau de l'aide qui devrait être apportée à la population.
Oui, parce qu'il faut un État fort pour gérer ce genre de crise. Aujourd'hui, il n'y a pas d'État. Et la population en a marre d'avoir été spoliée. Elle est déterminée, elle veut que les choses changent, le système change. Et donc aujourd'hui, elle demande des comptes. Liban n'est pas un pays pauvre, mais il a été rendu pauvre par la corruption, par l'intérêt personnel. Et il faut que ça change aujourd'hui. Comme disaient certaines personnes, on a été rendu pauvre. Et c'est une volonté des personnes égoïstes et aussi des puissances égoïstes à l'extérieur. Donc toutes ces questions aujourd'hui doivent être traitées avec le nouveau gouvernement.
Le Liban apparaît donc de plus en plus affaibli. Quelles pourraient être les conséquences de cet affaiblissement pour toute la région?
Écoutez, le Liban a toujours été un pays d'équilibre. Et donc aujourd'hui, la communauté internationale doit craindre que la disparition du Liban ou bien la complexité dans le Liban pourra entraîner des problèmes au niveau régional. Deuxièmement, la population libanaise aujourd'hui, qui a aussi accueilli plus que 1 500 000 Syriens, aura aussi à gérer une population qui est en train de s'appauvrir. Et donc aujourd'hui, on va vers une crise humanitaire, crise sociale et aussi, je dirais, une crise morale parce que la communauté internationale est en train de regarder cela dans l'indifférence.
Voilà Aloysius John, le secrétaire général de Caritas Internationalis. Il était interviewé par Hélène Détombe. C'est la fin de ce journal. Je vous souhaite une très bonne soirée. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain matin à 8h30. Au revoir.